bruit de rivière.
Oui, c'est ça.
Derrière nous. Ça va être bon. Déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter, tout simplement ?
Eh ben, je suis philosophe, enseignante, et j'écris, j'enseigne, et je suis aussi impliquée dans différents processus, à la fois associatifs, institutionnels, autour des problématiques liées au milieu, à comment réhabiter nos milieux et en prendre soin.
Alors, je crois que vous êtes impliqué assez fortement, vous avez été impliqué assez fortement dans le Parlement de Loire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'est le Parlement de Loire, voilà, un peu nous expliquer tout ça.
Alors, généralement, quand on parle de Parlement, on s'imagine tout de suite l'Assemblée nationale. Donc, il ne s'agit pas du tout de ça. Hein. C'est plutôt, disons, un Parlement au sens d'un espace qui libère une parole collective. Et donc, le processus, on préfère parler de processus du Parlement de Loire, a été initié au départ plutôt dans une démarche culturelle, s'inspirant du mouvement des droits de la nature. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique de considérer un fleuve comme un sujet de droit et donc comme un sujet, c'est-à-dire comme une personne en tant que telle, dont nous, humains, faisons partie. Donc c'est un petit, ça va produire un renversement. La Loire, enfin, en tout cas, nous, du coup, ça s'est posé sur la question de la Loire. La Loire n'est plus simplement un territoire sur lequel on habite, mais plutôt un territoire vivant dont on fait partie et qui est une entité vivante qu'on participe à nourrir et qui nous nourrit. Et donc c'était un petit peu l'hypothèse de départ qui s'inspirait de différents mouvements qui se développent un petit peu aujourd'hui partout dans le monde, dont une des expériences les plus connues, c'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande sur le fleuve Whanganui, avec la reconnaissance du fleuve Whanganui au titre de personne, c'est-à-dire au titre de Te Awa Tupua, qui est son nom de personne collective. Et donc l'idée, c'était, il y avait cette hypothèse-là, et qu'est-ce que ça ferait si on reprenait ce schème sur la Loire ? Il y avait ça, et puis après, sur un plan plus politique, il y avait aussi l'inspiration du travail du philosophe-sociologue Bruno Latour, autour de l'hypothèse d'un parlement des choses, c'est-à-dire d'un espace politique dans lequel on donnerait une place et une voix aux non-humains, et pas seulement aux humains. Donc ça, c'était un petit peu l'hypothèse de départ, qui s'est traduite dans une première année par l'organisation d'auditions, au cours desquels étaient invités différents experts de différents domaines. Donc il y avait philosophes, mais aussi écologues, paysagistes, juristes. À tous était posée cette question. qu'est-ce que ça ferait sur votre discipline et sur votre manière de penser un fleuve, le fait de le reconnaître comme une personne morale. Et donc ça a ouvert tout un processus de questionnement autour duquel s'est agrégé un collectif de structures. Et donc aujourd'hui, il y a une dizaine de structures qui en fait ont plutôt basé sur la Loire, alors que c'est plutôt démarré de Tours, mais petit à petit, l'idée, c'est d'élargir, parce que voilà, c'est plutôt ouvrir un processus ligérien. Donc c'est à la fois des structures associatives, mais aussi des acteurs culturels, mais aussi institutionnels, comme l'université ou des structures plutôt dans le patrimoine. Donc on est une dizaine. Et donc là, ça prend plutôt cette forme-là d'un processus ouvert au sein duquel sont initiés différents projets qui visent à reconsidérer et à transformer nos manières d'habiter le fleuve et de se penser en relation au fleuve. Et donc, par exemple, une des traductions de ce basculement, donc on n'est plus du tout sur ce format audition aujourd'hui, on est plutôt sur comment faire émerger des processus sociaux, culturels, socio-écologiques depuis le territoire ligérien, comme l'organisation de la Grande Remontée de Loire, donc qui a eu lieu en 2023, il me semble, qui était en septembre, où en fait tous les ans en septembre, il y a une fête des bateliers à Orléans. Et donc ça, c'est l'occasion au cours de laquelle différentes associations de bateliers sur la Loire remontent le fleuve en bateau pour aller jusqu'à Orléans. Et donc on s'est ressaisi de cette occasion parce que parmi les structures qui composent le collectif Vers un Parlement de Loire, il y a une association de bateliers, hein, la Rabouilleuse. Et donc autour des activités qu'amène est née cette idée. Et tiens, et si on profitait de d'une grande remontée, de réorganiser ensemble collectivement une grande remontée pour porter la charte qui a été écrite par le collectif Vers un Parlement de Loire, qui proclame les voies et les droits de Loire. Et donc l'idée, c'était une grande remontée qui part de l'estuaire jusqu'à Orléans sur une vingtaine de jours, avec plein d'escales pour aller à la rencontre des habitants du fleuve, s'arrêtant sur différentes communes, sur les villes, et à chaque fois de faire connaître, en fait, porter la voix et les droits du fleuve, et de créer, en fait, contribuer à l'émergence d'un peuple de Loire en devenir. Et voilà.
Il y a aussi un lien avec ces histoires d'enjeux de gouvernance, forcément, par rapport à une personne morale qu'on appelle un fleuve, oui. La Loire en l'occurrence. Comment vous avez aussi pensé ça et, voilà.
Alors, les enjeux de gouvernance, justement, ce qui nous intéresse, c'est comment on déplace aussi l'espace du politique. C'est-à-dire qu'on voit bien que tout le... Donc ça, c'est aussi, moi, c'est des questions sur lesquelles je travaille sur un plan plus philosophique. Mais tout la structure politique moderne s'est organisée autour, justement, d'assemblées dans lesquelles les humains dialoguent pour se mettre d'accord, pour prendre des décisions sur comment ils vont gérer leur territoire, par exemple. Et donc, l'accent politique est plutôt mis sur les clivages. Enfin, le débat politique s'organise plutôt autour de clivages idéologiques. C'est-à-dire on adhère à certaines idées, certaines valeurs que l'on va porter, du coup, on va essayer de les traduire après en actes. L'hypothèse que je fais, hein, c'est qu'il y a un déplacement, une nécessité de réinventer l'espace politique, parce qu'on arrive à des points de clivage idéologique extrême où on n'arrive même plus à se dialoguer, en fait. Chacun est accroché à son idée, alors qu'on habite des territoires en commun. Et qu'en fait, le commun, il faut peut-être repartir de qu'est-ce qui est commun. C'est là où on habite et comment on prend soin de ce qui nous permet de vivre en commun. Donc là, il y a un enjeu de redéplacer l'espace politique en repartant des milieux de vie, en tenant compte aussi de toutes les formes de vie qui cohabitent au sein du milieu. Donc ça veut dire que la parole n'est plus seulement réservée aux humains. C'est d'où l'idée de donner voix aussi aux autres formes de vie et de repenser l'ensemble des relations qui nous permettent de cohabiter. Donc ça veut dire que sur les modes de gouvernance, ça ne peut qu'avoir un effet, disons, sur le long terme, de repenser comment les structures politiques, les collectivités, les mairies vont se réarticuler à des processus habitants pour justement permettre, pour en fait reconnaître les manières d'habiter et travailler avec les manières de composer l'espace. Et donc ça veut dire, vous voyez, l'espace politique il se déplace, c'est-à-dire que les formes aussi de légitimation se déplacent. Donc pour moi c'est là à long terme, et ça se traduit déjà de manière très, comment dire, on n'en est qu'aux prémices là, on est vraiment sur un processus sur le long terme, et par exemple sur la Loire, à Tours, l'année dernière, la mairie de Tours a reconnu Loire comme la personne d'honneur de l'année. Donc ça déjà, on voit, c'est la première fois qu'une entité vivante, un écosystème, était reconnue en tant que personne d'honneur par une mairie. Donc là, on voit bien que déjà aussi, du point de vue politique au sens traditionnel, il y a des choses, des représentations qui sont en train de se déplacer. Maintenant, c'est comment on va traduire ça dans le long terme par l'invention de nouvelles formes institutionnelles, de nouvelles formes instituantes qui permettent de repenser la réarticulation entre les pouvoirs de décision politique et les communautés habitantes, tous les processus socioculturels des territoires.
Est-ce que ces actions, et puis aussi tout ce qui a été pensé au niveau gouvernance, est-ce que ça eu déjà des résultats? Est-ce que ça a créé de nouveaux attachements au fleuve?
Bah là, je dirais que... Alors, il y a deux questions différentes. Il y a sur le plan, disons, des gouvernances, ça, c'est des processus longs qui sont en train d'émerger. Par exemple, sur le Whanganui, hein, le fait de reconnaître le fleuve au titre de personne morale, ça a donné lieu à la création d'institutions. Ce qui est intéressant, c'est que ces institutions se pensent dans la perspective du fleuve. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas là pour représenter des intérêts humains contre des intérêts non humains. Ils sont là pour représenter le fleuve lui-même, prendre soin de la santé du fleuve, les humains étant inclus dedans. Donc ça veut dire que déjà, ça change beaucoup sur... vous voyez, ça permet... Enfin, l'idée, c'est ça, en tout cas, de sortir des clivages entre économie et écologie, où on voit bien qu'ils grèvent un petit peu tous les processus politiques actuels. Parce qu'en fait, là, la question, ce n'est pas de les opposer, c'est de partir comment on prend soin du fleuve et de toutes les interdépendances qui permettent au fleuve de vivre et d'être en bonne santé. Donc ça veut dire que ça déplace déjà dans les manières de penser les institutions, parce que ça veut dire inclure la voix aussi des non-humains. Par exemple, c'est aussi ce qui se passe plus récemment, là, c'est en Espagne, dans le sud de l'Espagne, en Murcie, avec autour de la lagune du Mar Menor, qui ont justement obtenu, grâce à un mouvement social populaire absolument énorme, réussi à obtenir la reconnaissance de la lagune au titre de personne morale. Et maintenant, ils sont dans la phase de créer des institutions qui permettent de prendre soin de la lagune. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le processus de gouvernance, ils essayent de repenser aussi la place notamment des scientifiques, hein, comment ils peuvent participer au processus de gouvernance, et des habitants en tant que gardiens du fleuve. Donc ça veut dire que ça, on assiste à une reconfiguration de formes politiques traditionnelles. Donc ça, c'est plus sur le plan de la gouvernance, où il y a plein d'expérimentations qui s'inventent aujourd'hui, mais où c'est en cours, hein. Et puis après, sur la question des attachements, c'est... Il me semble que c'est un petit peu ce que j'entends ici, hein, dans ce qui est fait à travers les différents témoignages, hein, autour du travail sur les atlas, par exemple. J'entendais tout à l'heure, il y avait un atelier sur l'atlas qui a été mené sur la rivière de la Pique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle expliquait qu'au début, c'était parti du fait qu'il y avait des polarisations conflictuelles autour de la question des pollutions, qui justement étaient abordées d'un point de vue strictement idéologique. Bah oui, ça crée des conflits énormes. Mais du coup, comment dépolariser la conflictualité en revenant à cet espace commun habité et en renouant avec des attachements? Au final, qu'est-ce qui nous attache au fleuve? Qu'est-ce qui, du fleuve, nous nourrit? Et du coup, petit à petit, ça peut amener à rouvrir des espaces de dialogue entre bah, des personnes qui n'arrivent plus à échanger et qui n'arrivent pas à échanger dès qu'on amène ces questions-là sur le plan politique et idéologique.
Et donner une existence même à morale à une rivière, un fleuve, un cours d'eau, c'est aussi peut-être un axe de respect. Voilà, on est là-dessus, c'est-à-dire qu'on arrête d'oublier le fleuve, on arrête d'oublier la rivière, vous existez.
Ben ça, c'est énorme. En fait, je pense qu'on ne se rend pas compte du déplacement que ça opère sur un plan sensible et dans la manière même dont se vit dans le rapport au fleuve et à l'eau. C'est-à-dire que ce dont elle témoignait justement quand elle présentait l'atlas du Lapic, c'était de dire, en fait, on a proposé des ateliers d'écriture où les habitants parlaient au nom de la rivière et disaient « je » pour incorporer en fait le Lapic. Et ça, c'est très puissant, parce que tout à coup, on ne se retrouve pas dans un rapport d'extériorité. Donc l'eau, c'est plus simplement un cours d'eau qu'on va chercher à maîtriser, ou dont on va essayer de gérer les débits, ou partager la masse d'eau entre les différents usages. Et ça, c'est la représentation encore très anthropocentrée, moderne. Là, on est plutôt comment on est le fleuve. On en fait partie. Du coup, sur un plan... Vous voyez, à l'anthropologique, ça change complètement. Il n'y a plus le monde des choses, ce qu'on domine, et puis les sujets qui sont essentiellement les humains. Mais nous sommes partie de collectifs plus larges qui incluent les non-humains. Et du coup, ça nous repositionne, ça nous réinscrit dans les dynamiques du vivant, et en tant que vivant.
Et à partir de là, on parle, chez les humains d'homicide, on peut parler d'écocide plus facilement, non ?
Tout à fait. Ah oui, là, la notion d'écocide, elle est très importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de campagnes sur le plan international pour défendre la reconnaissance du crime d'écocide. Et ça aussi, ça participe aussi d'une transformation du rapport et d'une nouvelle considération des milieux que l'on habite. Donc oui, ça participe de tous ces déplacements qui sont opérés par tous ces processus qui essaient de réinscrire l'humain dans les cycles du vivant.
Un dernier mot, vous avez commencé à en parler, mais quel regard vous portez de façon un peu générale sur cette initiative en Bretagne, ces atlas socioculturels des rivières ?
Eh ben moi, de ce que j'en ai entendu, je trouve ça vraiment, un outil extrêmement intéressant, parce que précisément, ça permet de repartir des milieux. Et il me semble que tout le travail... C'est un travail, en fait, politique, qui est vraiment profondément politique, mais pas politique au sens traditionnel, c'est-à-dire politicien, où on se positionne sur des modes idéologiques, mais politique au sens où on retravaille le lien qui fait commun et communauté. C'est-à-dire, c'est de nouvelles manières de faire et de travailler aux soins communautaires. Et je trouve, du coup, qu'en tant qu'outil de médiation, au sens large, hein, je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant.
Merci beaucoup.